Culture Club, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Christophe Maury.
Marie-Noëlle Tranchant, Dominique Borde, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes dans le studio. Bernard Midioni nous rejoint par téléphone. Bonjour Bernard.
Bonjour Christophe Maury.
Les trois films retenus cette semaine, Green Border, La Bête et Dali. Alors, je propose qu'on commence par Green Border. Nous sommes en Biélorussie en 2021. C'est une famille syrienne qui veut rejoindre la Suède. Elle est arrêtée, entre autres personnes et familles, entre la Biélorussie et la Pologne. Et puis, elle va facilement comprendre qu'ils sont l'otage de ceux qui les dépassent. Le film est en noir et blanc. Il est signé Agnieszka Hollande. On écoute la bande-annonce.
Demain, on vient ici.
Mais, habibi, là, nous sommes en train de se
لا حبيبي
ستار 300 دولار ستار
شباب
شباب رانا السيد
شكرا
وين بولان وين يورب وين ميدن سير واتا
Straż Graniczna dostała rozkaz przerzucania was przez druty. Polskie władze nie chcą was tutaj.
Musicie pokazać profesjonalizm.
Dominique.
Oui, alors, c'est à la fois un témoignage et une parabole, au fond. Témoignage sur ces Syriens qui veulent regagner l'Europe coûte que coûte. Et vraiment, c'est coûte que coûte, parce que c'est une épreuve, c'est vraiment... Ça pourrait s'appeler Mortelle randonnée ou Voyage au bout de l'enfer, leur odyssée. Hein. Et puis, une parabole pour tous les migrants qui risquent leur vie pour trouver la liberté. C'est peut-être l'impact le plus violent et le plus fort du film. Hein. Comme vous l'avez dit, c'est en noir et blanc, donc c'est d'autant plus fort. D'autant qu'il y a une image au générique qui est en couleur. Alors on se dit, tiens, mais normalement, tout est en noir et blanc. À partir de là, le film est cet itinéraire à risque, une aventure jalonnée de mort et de violence, des enfants sacrifiés, des adultes malmenés, au fond tous ces pays, et surtout la Pologne comme la Biélorussie, qui jouent le protectionnisme et qui veulent surtout pas être envahis par les migrants, on connaît ça. Alors, partout, ils sont mal vus, partout, ce sont des moutons noirs. Le film est violent, pathétique, et tous sont confrontés à la violence, à la lâcheté et à ces états égoïstes qui ne veulent surtout pas d'eux. Quoi. Politiquement, c'est aussi une critique de la Pologne qui a très mal reçu le film, d'ailleurs, il faut le dire, et qui reçoit assez mal les immigrés et ses enfants sacrifiés. C'est très fort, c'est un peu long, ça dure 2h30 tout de même, mais on peut pas ne pas être pris, ne pas être, je dirais pas passionné, mais captivé par le sort de ces migrants. Et je le répète, on pense à tous les migrants dont on parle tellement, ceux qui sont à Paris aussi dans une tente sous une station de métro, on pense à tout ce qu'ils ont vécu avant. Et ça, le film en ce sens-là a quelque chose de pédagogique qui n'est pas inutile. Oui.
Marie-Noëlle Tranchant.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec cette dimension que souligne Dominique, qui est de nous sortir des discours politiques abstraits pour nous rappeler que, quelle que soit la position politique qu'on ait, qu'on adopte, il s'agit d'êtres humains, en chair et en os, qui ont une existence personnelle, une histoire, des drames, et le film nous fait entrer dans leurs tribulations et compatir à leurs souffrances. Et c'est très important, c'est le rôle, oui, de l'art, du cinéma, notamment, ou de la littérature, de donner de la chair à des problèmes qui souvent abstraits.
Pas le premier film sur la migration.
Non, on a parlé récemment, voilà, j'y pensais bien sûr, oui, de Moi, capitaine, où on voyait cette traversée de l'Afrique par deux jeunes adolescents sénégalais.
Mais là, le fait que ce soit des familles, une famille, avec des enfants, voilà, c'est ça qui est
encore
plus
choquant. Voilà, au départ, c'est ça. Alors, elle a découpé, Agnieszka Hollande, son film par chapitre, de sorte qu'elle donne différents points de vue. Au départ, c'est la famille. Et on voit, en effet, cette famille syrienne qui fuit la guerre, il y a trois générations, le grand-père, les parents, les enfants, et ils espèrent aller en Suède, où ils sont attendus, ils ont de la famille déjà en Suède. Donc en principe, leur itinéraire est prévu, planifié, oui, balisé. Et ça ne se passe pas du tout comme prévu, ça se passe très mal. On les débarque en Biélorussie, ils doivent traverser cette forêt terrible, passer la frontière polonaise où on les
dans les barbelés,
rejette, dans les barbelés, dans les... sous les barbelés, ouais. D'où ils sont rejetés par les gardes frontières. Alors là, on adopte un autre point de vue, il y a un autre chapitre sur le garde frontière qui est chargé de les chasser. Et
certains sont un peu en empathie, mais on leur dit, oui. Mais attendez, on ne peut pas faire autrement. Il oui. Hein, y a des consignes très précises,
oui,
aux frontières.
Mais oui, on assiste à une formation, ben voilà, c'est comme ça, c'est ce qu'ils doivent faire. Donc ils sont refouillés, il y a un jeu de chat et de la souris très cruel entre la Pologne et la Biélorussie, où le repasse en Biélorussie, ils sont dépouillés. Là encore, donc les téléphones, tout ce qui pouvait les relier, ils perdent tout, ils sont perdus dans les forêts. Et il y a un autre point de vue ensuite, un autre chapitre sur les activistes humanitaires, alors qui essaient de venir à leur rescousse. Il y a une psychologue aussi. Mais c'est complexe aussi, les situations. Donc elle montre bien, il y a cette confusion qui existe dans l'image aussi, parce que ce noir et blanc est fort, et comme l'a dit Dominique, captivant, c'est le mot. On ne voit pas les 2h30 passer. On est embarqué cette odyssée. C'est très impressionnant. Cela dit, reste Agnieszka Hollande, elle est visiblement du côté de ouvrir les frontières. Mais les problèmes politiques restent entiers. On sent surtout, si on n'est pas uniquement conduit par son émotivité, au sortir d'un film comme ça, on se dit, mais on a surtout un sentiment d'impuissance devant l'ampleur de la question.
Et au-delà du message humanitaire ou politique, il y a cette dimension d'humain, et particulièrement aussi, c'est les enfants qui m'ont manqué.
En ce moment, on parle beaucoup des Comoriens qui vont à Mayotte. Hein, moi, j'ai été à Mayotte il y a quelques années. C'est vrai que ça, c'est inquiétant, parce que tous les jours, vous avez des Comoriens qui arrivent sur Mayotte, qui a développé une délinquance, une violence qui n'existait pas. Donc, il y a aussi l'envers de la médaille, si tu veux.
Mais bien sûr.
Voilà. Alors, passons au deuxième film, si vous le voulez bien.
C'est impressionnant.
C'est impressionnant, et c'est un film à voir, à mon avis. Oui. Agnieszka Hollande. Oui. La Bête de Bertrand Bonello avec Léa Seydoux, Georges Marquet et Kuslagi Malanda. On est en 1910, en 2014, en 2040, trois dates, trois moments où se joue finalement un peu la même histoire d'un amour impossible, chacun campant dans sa position de crainte de l'échec.
Votre projet personnel ?
Travailler.
Vous avez beaucoup trop d'affects.
Faut choisir entre le travail et les affects ?
Oui. L'intelligence artificielle peut vous aider à vous débarrasser de vos affects. En purifiant votre ADN, vous allez replonger dans vos vies antérieures pour nettoyer les traumatismes dont vous avez hérité depuis des siècles.
J'ai ce sentiment très profond que quelque chose de terrible va arriver.
Vous vous souvenez, n'est-ce pas ?
De quoi ?
Que nous nous sommes déjà rencontrés.
Ah oui ?
Talked about a strange, rare, and terrible thing. You were convinced that it would eventually obliterate you.
I forgot ever sharing such a confidence.
You belong to me.
Un jour, j'ai quitté mon mari pour cet homme. Est-ce qu'il y a un risque?
Bien sûr. Il y a une bête prête à bondir.
Don't be afraid.
Quelqu'un va mourir. Peut-être vous, peut-être un proche.
What is stronger? Your fear or your love for me?
Because you think I love you. You're here.
You told me a hidden beast would appear.
Did you think I was crazy?
You
sur la musique, je tiens à dire que Léa Seydoux est absolument envoûtante dans ce film.
C'est elle qui porte le film.
C'est certain.
Ouais.
Et c'est formidable. Ouais. Maintenant, la bande-annonce est extraordinaire. Le film est long.
Le film est long, lui aussi. Oui, le film est très long.
Dominique, allez-y.
Bah oui, alors, pour la petite histoire, c'est tiré d'Henry James.
Oui.
Et ça avait été adapté, ça Christophe doit le savoir, par Marguerite Duras, déjà au théâtre.
Tout à fait, et c'est une toute
La bête dans la jungle, c'est
petite ça nouvelle, hein, ouais, Henri James, c'est très court.
Oui. Alors, bah, c'est déconcertant, oui, c'est une métaphore fantastique et esthétique. Moi, j'y ai vu simplement la peur de l'amour. C'est-à-dire que
oui, c'est ça.
Pendant tout le film, c'est ça. C'est la peur des femmes, la peur du sentiment qui se transforme en haine, puis en désir. La bête, c'est l'amour, justement, qui nous entame ou qui peut nous tuer ou qui peut nous modifier. On pense à la parole dans la pièce de Shakespeare, Antoine et Cléopâtre, « Ah, comme nous allons être malheureux !» Et c'est ça qui leur fait éviter l'amour à chaque fois. Et donc ça, on peut très bien le comprendre, tout, mais comme l'a dit Christophe, où il est assez doux, tiens, le film, elle est de tous les plans, de toutes les scènes, et je me demande quelle autre actrice aurait pu supporter 2 heures et demie de ce délire esthétique qui nous confond et qui nous laisse un peu sur le côté, d'ailleurs, souvent.
Oui.
Elle a quelque chose, cette séduisante absence, à la fois dolente et mystérieuse, un masque qui bouge et qui nous touche. Elle est vraiment un peu partout et elle incarne bien l'attente et la peur. Et cette peur qui va arriver, on se demande ce que ça va être, c'est pas faux, c'est une ombre. Hein. Mais cette ombre, c'est l'amour. Et ça peut faire peur à tout le monde, d'ailleurs. C'est ce que nous raconte le film. C'est la séduction et l'ignorance. Et heureusement, oui, je le répète, heureusement que c'est Léa Seydoux qui joue ça, parce qu'elle n'a pas une beauté fracassante, mais elle a une beauté intérieure qui réveillit comme ça.
Ah, oui.
Et ce masque à la fois doux et un peu étranger. Et c'est ce qui rend le film attachant. Voilà. Elle est là et c'est tout. Et c'est là l'essentiel. Autrement, bon, on peut trouver le film un peu abscon.
Ah oui.
Et un peu long.
Ah oui, voilà. Plus que ça. Il y a deux scènes que je trouvais prodigieuses, c'est quand ils se donnent la main.
Oui.
Comme si c'était une étreinte uniquement des deux mains. Ça, c'est une très grande force. Et puis, il y a la scène dans le magasin, enfin, dans l'usine de poupées. Il y a l'incendie dans l'usine de poupées qui est incroyable. Marie-Noëlle.
Oui, c'est très vrai. Mais moi, la première chose que je dirais de ce film, c'est quand même sa grande beauté. Ça, c'est étonnant, puisqu'il traverse trois époques, il entretisse trois époques. Les années 1910.
Avec la grande crue de la Seine.
Avec la grande crue de la Seine, l'inondation. Les années 2010 ou 15, enfin, à peu près une époque contemporaine. Et puis, une époque futuriste. Et vers 2044, je crois, ou quelque chose.
2040.
Et ces trois époques sont très bien entretissées stylistiquement, visuellement. À chaque fois, il a un style différent, extrêmement précis et intéressant et beau esthétiquement.
La musique est parfois fort belle.
Oui, parfois fort. Donc, c'est très beau.
Elle est de lui, hein.
Ces époques
de Bertrand Bonello.
Alors, je souscris absolument à l'analyse de Dominique, cette analyse psychologique profonde. C'est l'héritage de Henry James. Mais Bonello y ajoute ici justement, à travers ces trois époques, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant qui est un mouvement vers la désincarnation et de plus en plus grande de l'être humain. Une perte, une dépersonalisation, une perte d'intériorité. Et c'est ce qu'elle redoute aussi. On l'entend très bien dans la bande-annonce, qui fait bien de retranscrire ce dialogue très intéressant entre une intelligence artificielle qui est en voix off et qui la travaille en 2044 et veut la purifier de ses affects. Et elle est musicienne, elle dit mais il n'y a pas de musique sans sentiment, elle ne veut pas risquer. Et pour la rassurer, l'intelligence artificielle lui dit « Non, vous continuerez à avoir des sentiments, à ressentir les choses. Simplement, ce sera tranquille. Ce sera serein. On aura purifié, et ça, la notion de purification aussi lui fait peur, votre ADN de tous les traumas inconscients hérités de vos proches, de votre famille, de tout ce qui vous présente. » Alors, qu'est-ce que ça peut être que des affects sereins? Qu'est-ce que c'est qu'une peur sereine, qu'une angoisse sereine, qu'une colère sereine. Oui, voilà, c'est l'oxymore de l'intelligence artificielle. Et ça, c'est très intéressant.
Mais vous n'êtes pas ennuyée.
Alors, je me suis ennuyée à partir du moment, du tremblement de terre. Il y a un tremblement de terre.
Ouais.
Et là, il y a, après, dans la maison, une scène d'angoisse qui n'en est pas une.
Ça, c'est vers la fin. Ah ben oui,
mais après, à partir de là...
Moi, je me suis ennuyée bien avant.
Ah oui. Non, moi, au début, j'ai été assez captivée par le mélange d'époques et, justement, cette réflexion sur l'intelligence artificielle et cette question qui me paraît en effet centrale, que vont devenir nos sentiments profonds.
Non, mais
notre intériorité.
C'est une vraie question. Les gens étaient un peu furieux quand ils sont sortis de la salle.
Oui, oui, parce que malheureusement, le film part d'une grande sophistication esthétique, très maîtrisée, et va, au lieu d'aller vers de la profondeur, va vers davantage de sophistication et de plus en plus de sophistication.
Il faut pas oublier que tout se développe devant un écran vert, sur cet écran où
alors
on peut
projeter n'importe c'est
quoi.
Ça qui est bien fait.
Et ça, c'est important.
Alors,
mais c'est très intéressant.
Chose émouvante, c'est que le film est dédié à Gaspard, car c'est Gaspard Huliel qui devait jouer le rôle principal
et qui
est mort avant. Voilà.
Alors, nous passons maintenant à Dali, et nous allons avoir Bernard Medioni au téléphone. Dali, de Quentin Dupieux. Dali. Anaïs de Moustier, Gilles Lelouch, Édouard Baird, Romain Duris, qui était patent dans le rôle d'un producteur. Hein, il est vraiment formidable. C'est l'histoire d'une ancienne pharmacienne qui est reconvertie dans le journalisme et qui veut réaliser un documentaire interview de Salvatore Dali, le peintre surréaliste. Alors attention, il ne s'agit surtout pas d'un biotique, mais d'un film de copains qui s'amusent dans des décors merveilleux. On écoute la bande-annonce avant de vous entendre les uns les autres.
Maître, on peut faire une pause un peu, là?
Oh, putain, quel enfer!
Mais ça va pas, la tête? T'es fou de le déranger comme ça, tu sais qui c'est?
Dali est probablement...
On est là!
...le seul artiste encore vivant sur cette planète. La caméra, énorme ou gigantesque? Moteur! Il y a une chose que je déteste encore plus que les enfants, c'est les dessins de les enfants. Ça, je ne peux pas les supporter.
C'est moi, un plus vieux.
Un vieux, vous?
Oui, très vieux, très laid. Une chaise roulante.
Alors voilà, ça commence en enfer.
En enfer.
C'est inadmissible. Pablo!
Voilà! Monsieur Dali, s'il vous plaît.
Mais je ne vous entends pas. Là, en ce moment même, il y a une pluie de chiens morts. Là, c'est Dali.
Je voulais pas vous décourager, vous avez l'air tout excité par le projet, mais entre nous, une boulangère qui veut faire un documentaire sur un peintre.
Alors, le film est complètement déjanté, on ne sait rien sur Dali. Si on ne le connaît pas, on sort un peu interdit. Qui est Dali? On oublie que c'était l'ami de Federico Garcia Lorca, de Juan Miro, qu'il avait un virage catholique en 1949, qui était très, très, très important. Mais enfin, là, il avait rencontré Zweig, Freud, Léonor Fini. Là, on a vraiment une caricature de Dali. Je n'ai pas parlé de Cohen, qui pour moi est le meilleur des quatre.
Ah oui?
Ah oui.
J'ai bien aimé Edouard Baird.
Oui, moi aussi.
Oui, mais Edouard Baird, c'est le cousin, aussi. Donc, à chaque fois qu'on le voit, on est content de le voir. Mais je trouve que Cohen est formidable. Oui. Allez, Dominique, lancez-vous.
Ben, c'est deux folies qui se rencontrent, celle de Quentin Dupieux et celle de Dali. Les deux, on les connaît, surtout Dali. Souvenons-nous du chocolat Lanvin.
Oui, souvenons-nous du chocolat Lanvin.
Et voilà, qui ne résistait à rien, et surtout pas à cabotiner, mais à être un peintre génial, faut même le dire. À partir de là, tout est permis. Hein. C'est à la fois, il fait joujou avec Dali, c'est à la fois une charge et un hommage. Enfin, ça se mélange, c'est assez bien vu là-dessus. Et puis, il y a cette journaliste qui veut bien sûr interviewer Dali et qui envoie plus dire. Et surtout, il y a quelques petits rappels de Dali. Il y a le piano à queue qui arrose les fleurs et qui sert de pot de fleurs. Et il y a l'homme au crâne hypertrophié qu'on retrouve dans une peinture. Il y a des chiens morts qui tombent sur une fenêtre. Et puis il y a ce couloir interminable qu'Edouard Baird en voit. Alors cette séquence-là, je vais faire une toute petite parenthèse cinéphilique. Jacques Tati l'avait déjà employé dans Playtime. En prenant un couloir interminable, c'est-à-dire où le type faisait du surplace pour laisser penser que le couloir était très long. Il y a des choses comme ça. ça. Il y a 6 interprètes différents, donc qui jouent Dali. Alors on est toujours un peu... C'est Edouard Baird, c'est tantôt Jonathan Cohen, puis Omar Maï, Didier Flamand qui joue le Dali vieux, ou Gilles Lelouch. Ce qui nous laisse entendre un petit peu que tout le monde peut jouer Dali à partir du moment d'avoir une moustache en accent circonflexe et l'accent adéquat, c'est pas tout à fait ça, parce que Dali est inimitable dans ses excès, dans son cabotinage, dans sa notoriété, dans son talent fou, car il avait un talent fou. Et finalement, Dali, même si tout le monde ressemble à Dali, Dali ne ressemble à personne. Et c'est un petit peu ce que nous dit le film, qui promettait peut-être une explosion, un feu d'artifice, et puis bon, finalement ça reste plutôt des petites étincelles, mais des étincelles assez drôles qui peuvent nous touffer.
Marie-Noël.
Oui, on aime bien la fantaisie de Dupieux, qui est un cinéaste imprévisible, foutraque, très plaisant. Mais c'est une pochade. Moi, j'ai trouvé un peu long au début la mise en place. Mmh. Après, une fois que la machine s'emballe, les rapports entre le cinéma, l'image, c'est plaisant. C'est très, oui. C'est très amusant. Il y a des très bons moments.
On va demander à Bernard. Bernard, Médiani, vous avez.
Oui, moi, j'ai trouvé ça intéressant, pas complètement abouti, malheureusement, comme souvent dans les derniers films de Quentin Dupieux. Cette structure en poupée russe, par emboîtement successif, c'est original et drôle parce qu'on repose ici sur le comique de répétition.
Ah oui.
Avec le rêve qui est interrompu, puis de nouveau interrompu, puis de nouveau interrompu.
Ah, le curé est formidable, et le rêve du curé, c'est formidable.
Et ça c'est tout à fait intéressant. L'ecclésiastique est interprété par Éric Nagar, d'ailleurs. Ouais. À ce propos, l'interprétation, à l'exception de Gilles Lelouch et de Pio Marmaille, réussit à s'imposer vaille que vaille grâce à son authenticité, à une extravagance sans faille. Je trouve à titre personnel que Gilles Lelouch et Pio Marmaille ne sont pas Salvador Dali.
Non.
Certaines répliques se corsaient autant qu'affûtées, notamment lorsque Dali va balayer d'un revers de main le projet soumis par le curé et son jardinier, alors suscite une imparable hilarité. Il y a vraiment de francs moments de rire, et ça, c'est tout à fait sympathique. Il y a quand même deux aspects qui apparaissent clairement de Salvador Dali dans le film. C'est sa cupidité, rappelons que son anagramme, c'était Avida Dollar, et la mégalomanie. Et ça, c'est montré de manière tout à fait éloquente dans ce film. Alors, je suis d'accord avec ce qu'ont dit mes camarades, notamment sur ces deux surréalismes qui se rencontrent. Celui du père des Montremolles et puis celui du réalisateur d'Au Poste, du Dain et d'Incroyable mais Vrai. Et on comprend qu'il a été séduit par son univers. D'ailleurs, il fait appel à un troisième surréalisme qui est celui de Louise Buñuel.
Absolument.
Parce que cet entretien qui n'a finalement jamais lieu, ça rappelle beaucoup le dîner qui n'a jamais lieu dans Le Charme discret de la bourgeoisie. Il reprend un procédé qu'on a déjà vu dans I'm Not There, qui est de prendre un personnage interprété par différents comédiens. Dans I'm Not There, c'était bien sûr l'interprète de Like a Rolling Stone, à savoir Bob Dylan. Et ici, c'est Salvador Dali. Maintenant, le propos reste parcimonieux en raison d'un scénario qui demeure souffreteux. La fantaisie se déploie à tire d'aile, l'humour pinçant et rexel, mais l'ensemble n'en reste pas moins artificiel.
Donc cette vous musique... diriez pour terminer.
Mais il y a quand même un jeu avec le cinéma et le cinéma primitif, notamment.
Oui,
les trucages.
Ça pourrait aller plus loin, et comme souvent chez Quentin Dupieux, ça n'engendre pas la mélancolie, mais ça aurait pu faire montre de plus de drôlerie. La musique est un peu agaçante, oui, à la longue, et je dirais pour conclure que, tout comme le peintre farfelu, une telle œuvre va attirer, évidemment, mais avec délice, les fusillades et les pelotons d'exécution. Nul ne s'en étonnera, car Salve adore Dali.
Merci beaucoup, merci Bernard Médiani, Marie-Noël Tronson, Dominique Borne, pour votre commentaire sur ces films. Je rappelle que nous avons vu Green Border d'Agnieszka Holland, La Bête de Bertrand Bonello et Daha Ali de Quentin Dupieux. Il me reste à remercier Cédric Coba pour la réalisation, François Dieudonné, Philippe Alpech et Camille Meyer pour la réussite technique de notre rendez-vous. Demain, je recevrai Sylviane Guillaumont-Jeannet. Et si les femmes venaient au secours de l'Église, nous nous poserons la question et peut-être que nous aurons des réponses. Allez, à demain, je vous embrasse.